Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi, le 6e épisode de la grève perlée à la SNCF, un mouvement qui tente à s'essouffler alors que la direction propose des réductions à l'attention des usagers. À suivre la rencontre historique hier entre les présidents des deux Corées, une entrevue très suivie au sud, ignorée pour le moment au nord, nous dira notre envoyé spécial Élise Delève. Un succès pour François Hollande, un succès littéraire, son livre Les leçons du pouvoir se vend comme des petits pains, certains y voient une possibilité de retour. Avant-dernier jour au printemps de Bourges, place aux jeunes talents ce soir dans le prix découverte des Inouïs. Enfin du football avec la 5e place de la Ligue 1 pour Saint-Etienne, vainqueur de Montpellier 1-0 hier soir, mais aussi de la Formule électrique à Paris. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Laetitia Bernard. Les cheminots entament donc aujourd'hui leur 11e jour de grève perlée. Un 11e jour marqué par deux facteurs. D'une part, un nouveau fléchissement du côté des grévistes dont le pourcentage de salariés obligés de se déclarer passe à 28% selon la direction contre 48% au début du mouvement. Et puis, autre événement marquant, le geste commercial de la direction à l'intention des clients réguliers. La SNCF qui a donc décidé de mettre du baume au cœur des usagers en proposant des indemnisations. Premier bénéficiaire, les abonnés TER, Maxime Debs.
50%. C'est moins que ce que demandait la FNAUT, la principale association d'usagers, mais c'est un geste conséquent, sans précédent. 275 000 abonnés TER vont donc payer deux fois moins cher en juin, et ce, quelle que soit la région où ils habitent. Il faudra, pour obtenir cette ristourne, fournir son abonnement d'avril ou un justificatif. Alors, me direz-vous, qu'en est-il si vous prenez le TER, mais sans abonnement? Eh bien, sachez que si vous aviez acheté des billets sans pouvoir prendre le train finalement, ces derniers vous seront remboursés sans frais jusqu'à 2 mois après leur date de validité. Ces nouvelles mesures prises par la SNCF s'ajoutent à celles notamment prises pour les jeunes, les 16-27 ans. Détenteurs d'une carte ID.Max, ils ne paieront rien ce mois-ci. Coût pour la SNCF, 8 millions d'euros, auxquels s'ajoutent ces 10 millions pour les usagers du TER. Dans le coût de la grève, il y a un coût subi et un coût voulu. Là, commente le porte-parole de la SNCF, Mathias Vichra, on assume le fait de faire un effort financier pour nos clients.
À noter pour aujourd'hui, un TGV sur 2, 2 TER sur 5 et un intercité sur 3. Passation de pouvoir houleuse hier à Force Ouvrière. À peine élu secrétaire général du syndicat, Pascal Pavageau a été taclé par son prédécesseur. Jean-Claude Mailly a ainsi commenté dans un tweet le premier discours de son successeur par les mots suivants: hypocrisie et duplicité. Précisons que Pascal Pavageau était le seul candidat en lice.
En baisse dans les sondages d'opinion durant son mandat de président, François Hollande connaît aujourd'hui le succès dans la littérature.
C'est bien simple, le dernier livre de François Hollande intitulé « Les leçons du pouvoir » se vend comme des petits pains, au point d'ailleurs où certains observateurs politiques n'hésitent pas à parler d'un retour en grâce et donc en politique pour l'ancien président de la République. Le reportage de Cyprien Bézéril.
100 000 exemplaires déjà imprimés, 3 réimpressions et des heures d'attente pour obtenir une dédicace. Charlotte Brossier, la directrice commerciale de Fayard, est surprise.
Les signatures se passent mieux que ce à quoi on s'attendait. À Strasbourg, il a signé au moins 400 livres. Ça s'est terminé à 23h. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs capables de signer 6 ou 7 heures d'affilée.
Renouer le contact avec les Français, certes, mais pas seulement. En faisant la promotion de son livre, François Hollande multiplie les occasions de se faire voir et entendre dans les médias. Il se reconstitue une base électorale, estime un ancien visiteur du soir. Il est d'une certaine façon à nouveau candidat, pense le communicant Franck Tapiro.
Candidat déjà à l'existence. Qu'est-ce qu'il a à faire Hollande en ce moment? Pas grand-chose. Donc il se dit, face à Macron, il y a qui? Il n'y a personne. Donc il se dit, pourquoi pas moi?
Un livre des dédicaces qui rappelle un autre ancien président, Nicolas Sarkozy, qui a publié la même année 2 ouvrages en 2016, mais ça n'a rien à voir, balaye le sarkozyste Roger Carucci.
Autant ça avait permis de mettre Nicolas Sarkozy en situation d'aller aux primaires, autant je vois pas qui, après l'ouvrage de François Hollande, va dire celui qui peut revenir au présidentiel de 2022 pour le Parti Socialiste. Je n'y crois pas.
Cyprien Bézéril, François Hollande qui poursuit son tour de France. L'ancien président sera cet après-midi dans une librairie de Tours et demain à Limoges.
Sommet historique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud où les deux présidents se sont engagés en faveur de la paix sur leur péninsule.
Paix et fin du nucléaire, tels sont en effet les engagements pris par les deux hommes à l'occasion de cette rencontre historique. rencontre symbolisée par une poignée de main à la frontière des deux pays dans la zone démilitarisée. Une rencontre très largement médiatisée côté sud, mais en revanche totalement occultée semble-t-il, en tout cas pour le moment, côté nord, comme a pu le constater notre envoyé spécial à Pyongyang, Élise Delève, l'une des rares journalistes étrangères présentes dans la capitale nord-coréenne.
Ici, aucune réaction car aucune information. Le sommet intercoréen n'existe pas, rien dans le journal. L'agence officielle est sûrement en train de réfléchir à la façon de parler de la journée historique d'hier. L'image de Kim Jong-un est toujours soignée, il parle extrêmement rarement à la télévision. Ce sont surtout des images de lui recouvertes d'une voix lisant un communiqué. Je n'ai donc pas pu parler de la rencontre d'hier avec les habitants de Pyongyang car ils ne sont pas au courant et il est plutôt mal vu de poser une question qui peut embarrasser. Ce que je peux vous dire après quelques jours passés en Corée du Nord, c'est que pour les gens ici, la réunification est logique et naturelle. C'est la même nation, la même langue, la même nourriture, me disent-ils. La réunification a même été théorisée par le fondateur du régime nord-coréen, Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un. Aucun doute sur le fait que tôt ou tard, la frontière n'existera plus. Le problème, ce sont les États-Unis. Avant le sommet, j'ai rencontré un historien du régime qui m'a dit « C'est à cause d'eux, si la Corée est coupée en deux, c'est eux qui empêchent la réunification. » Pyongyang, Élise Delève, France Inter.
À l'étranger encore, un nouveau vendredi noir à Gaza dans le cadre de la marche du retour. Un raid de l'aviation israélienne sur le port de Gaza aurait fait 4 morts, dont un adolescent de 15 ans et plusieurs centaines de blessés si l'on en croit les services médicaux palestiniens. L'État hébreu indiquait avoir visé la force navale du Hamas en réponse à l'activité terroriste menée par ce mouvement. Après Emmanuel Macron accueilli en grande pompe par Donald Trump, c'est Angela Merkel qui a été reçue hier dans un registre plus classique par le président américain. Rencontre cordiale tout de même au cours de laquelle les deux dirigeants ont pu prendre acte de leur point de désaccord, à savoir le nucléaire iranien et les tarifs douaniers.
À présent, cette grosse déconvenue, ça s'est passé dans un musée des Pyrénées-Orientales, quand la direction a appris que la moitié des tableaux de l'une de ses collections étaient en fait des faux.
Scénario catastrophe, en effet, pour le musée Étienne Terrus, à Elne, près de Perpignan. Des personnalités du monde culturel ont en effet découvert que 82 toiles attribuées à Étienne Terrus, un peintre du 19e siècle, considéré comme un précurseur du fauvisme, des peintures, aquarelles et autres dessins, donc, étaient en fait des faux. Une découverte remontant à l'été dernier, mais seulement révélée hier. Clémentine Vergniaud de France Bleu Roussillon.
C'est par hasard que les faux tableaux sont identifiés. En août, la municipalité prépare une exposition pour mettre à l'honneur l'artiste de la commune, Étienne Terrus. Elle nomme un commissaire à l'exposition qui se rend très vite compte que beaucoup de tableaux semblent être des faux. Une commission est nommée, elle passe la collection au peigne fin. Verdict, 82 tableaux sont faux. Sur les 140 détenus par la ville, soit 60% de la collection. Ce sont des œuvres acquises par les précédentes municipalités, des dons, des prêts ou des legs au musée. C'est une catastrophe, déplore le maire de la commune, Yves Bargnol, qui se dit désolé de l'image qui a pu être donnée. Le préjudice est estimé à 160 000 euros, soit plus que la somme investie par la mairie pour rénover le musée, 140 000 euros. La ville a porté plainte le 30 mars pour faux, usage de faux, contrefaçon et escroquerie.
De la musique pour refermer ce journal avec le Printemps de Bourges, lancé l'avant-dernier jour, avec ce soir la révélation du prix Découverte des Inouïs. Le Printemps de Bourges, un véritable tremplin pour de nombreux artistes, Mathieu Culeron.
L'histoire d'un groupe ou d'un musicien commence souvent au Printemps de Bourges. Le rappeur Aurel San, par exemple, aura connu à Bourges toutes les étapes de sa carrière.
J'ai une bonne histoire avec le Printemps. À l'époque où tout le monde m'annulait, c'est eux qui m'avaient maintenu. Mais une fois, j'étais dans le jury des Découvertes, donc j'ai passé la semaine ici. Je commençais à bien connaître.
Autre parcours qui a commencé ici au Printemps de Bourges, celui d'Eddie Depreto, passé de Découvertes aux Inouïs à tête d'affiche.
C'est un peu le seul festival qui me permet de noter une certaine date anniversaire comme ça, en un an, et de voir un peu les changements qui ont été faits et qui ont été un peu grandiloquents, rapides, vifs, fulgurants, donc je suis ravi.
Mais celui qui a presque incarné le Printemps de Bourges, c'est bien Jacques Higelin, représenté par son fils Arthur H, qui lui a rendu hommage.
Bourges, c'est vrai que c'est beaucoup l'histoire de Jacques. C'est aussi à la base un symbole d'une forme de liberté dans la chanson, quoi, de défendre une chanson française ouverte, libre, un peu folle.
Des carrières qui se font et se défont au Printemps de Bourges, ce sera peut-être le cas ce soir pour le groupe Bagarre, Clara Luciani ou encore Pépite.
Et c'est donc demain soir que se refermera cette 42e édition du Printemps de Bourges. C'est la fin de ce journal et c'est à vous Éric Delvaux.
Un journal en tambour et trompette, signé Serge Martin.